La Domination, roman de Anna de Noailles, publié aux éditions Calmann-Lévy. Chapitre 1. Antoine Arnaud riait doucement de plaisir en regardant devant lui l'azur du soir, où chaque marronnier semblait un jardin solitaire et haut. À demi couché dans la grêle voiture qui le conduisait le long de l'avenue, satisfait, il pensait à soi. Il se sentait en cet instant le cœur léger et libre. La vie devant lui était si belle qu'il la prenait dans ses deux mains, lui souriait, la baisait comme un visage. Il avait 26 ans, le second livre qu'il venait d'écrire le rendait célèbre, et... là, d'une liaison qui durait depuis 3 années, il avait la veille rompu avec sa maîtresse. Ah, comme il se sentait empli de force, de plaisir, d'adresse et de mélancolie. La tête renversée, il regardait le soleil couchant, la cime pâlie des arbres, toutes les douces formes de l'espace, et il pensait... il n'est pas de plus verte royauté que la mienne. Je regarde passer les hommes et je suis surpris parce qu'ils passent près de moi sans attention et sans envie. Ils ne savent pas ce que j'ai dans le cœur. S'ils le savaient, ils voudraient toucher mes mains et mes yeux pour être à leur tour enflammés. Je regarde les hommes, je les méprise parce qu'ils sont simples, débonnaires, affairés. Ceux qui m'aiment ont assez de m'aimer sans que je les aime à mon tour. Les femmes, plus douces et plus fières, m'irritent. Mais je joue avec leurs secrets et leurs faiblesses. Je sais les limites de la plus sage. Le contour de leur âme est comme leur regard, tout cerné de langueur et de désir. Et le jeune homme se rappela le visage de sa maîtresse. Depuis 6 mois, il ne l'aimait plus. Un jour, il avait senti la fin de cet amour, comme on sent l'abîme. Il avait lutté, non par tendresse pour l'autre, mais pour se sauver soi-même, pour ne point périr, pour arracher aux ténèbres et continuer, s'il se pouvait, tant de sensations d'adolescence, de rêverie, de confiance et de plaisir. Ce fut en vain. Cette maîtresse, maternelle et ardente, dont le dévouement ne pouvait pas changer brusquement un matin sans raison, lui apparut démêlée de lui, seule, soi-même, ayant à parcourir désormais une route descendante à l'écart de la colline d'or où Antoine Arnaud s'élançait. De semaine en semaine, ressentant sa déception, sans compatir à l'affreuse douleur de son ami, il l'accoutumait à l'abandon et enfin il l'avait quittée, alléguant la nécessité de la solitude ou des voyages pour son travail. Antoine Arnaud était arrivé chez lui. Il entra, prit chez le concierge les lettres qui étaient là, une dont l'écriture ne lui était point connue, et l'autre de Madame Maille, sa maîtresse. Il éprouva, en voyant cette lettre, une tristesse inattendue et constata ainsi avec regret qu'ayant laissé toute la peine à l'autre, il lui en fallait porter soi-même quelques parcelles. Il ouvrit cette lettre en montant l'escalier, la parcourut, et arrivé chez lui, s'assit et la relut encore. L'écriture était si lasse, si sourde, si décolorée, qu'elle vacillait comme une voix épuisée. Antoine crut entendre cette voix. « Puisque je n'y peux rien, songea-t-il, avec un peu d'emportement, comme quelqu'un qui sait déjà plusieurs fois expliqué. Pourtant, la pitié l'envahissait. Accoudé à sa fenêtre et regardant la cour de la maison, Il imagina cette femme qui, tout à l'heure, tandis qu'il était sorti, venait déposer sa lettre. Il la voyait entrant chez la concierge, dans cet angle de mur froid, et demandant « Monsieur Arnaud est-il chez lui ?» La concierge avait dû répondre avec brusquerie « Il n'est pas rentré, il ne rentrera pas ce soir. » Et Antoine évoquait les yeux de Madame Maille, attaché sur l'épaisse et rude ménagère, un regard qui sans doute disait « Vous êtes heureuse, vous habitez le bas de la maison de mon ami, vous le voyez entrer, sortir, vous pouvez dire « Il est là ou il n'est pas là, vous épiez sa vie, vous êtes comme une servante, humble et amoureuse. » Antoine ouvrit la seconde lettre. Il ne crut pas bien lire, tant la surprise était forte. Il allait de l'adresse à la signature sans parcourir le texte. Cela déjà suffisait. L'homme, le plus illustre de son pays, le plus grand écrivain, avait tracé ces mots. Et lorsqu'il vit que, dans la lettre, à de sympathiques éloges pour son livre, se joignait une invitation à venir voir à la campagne chez lui le grand homme, Antoine défaillit comme si l'aurore était entrée dans son cœur. Les mille mouvements qu'il ne faisait pas l'étouffaient. Il eût voulu bondir ou s'anéantir, et retrouvant par hasard sous sa main la lettre de Madame Maille, il l'éloigna. Sa maîtresse ne lui apparaissait plus que comme une victime étrangère, comme une petite forme humaine qui s'en va de son côté toute seule dans la vie, selon la loi de tout destin, comme une buée d'automne qui meurt autour de nos pieds. Ne pouvant se résoudre à passer seul une si émouvante soirée, Antoine alla demander à dîner à son ami Martin Lenôtre. Il l'aimait. Il lui pardonnait ce qu'il lui reprochait, son humeur douce et les défauts de sa logique. Martin Lenôtre, âgé de 28 ans, médecin à l'hôpital Lebrun, parfaitement studieux et savant, pensait moins qu'il ne rêvait. Et la science que lui-même maniait le surprenait, l'amusait, l'attendrissait. Comme un miracle. Né dans des campagnes vertes et mouillées, toujours nostalgique de son enfance, il faisait de la médecine avec la douceur d'un botaniste. Les sureaux, la belladone, l'aconite, blanc et rosé dans les plaines, l'émouvaient. Il se sentait troublé comme Rousseau quand il s'écrit « De la pervenche, comme Michelet !» quand il soupire « Oh, ma gentiane bleue !» Il n'avait point de scepticisme, mais il riait avec une grâce naïve de ses doutes ou de ses affirmations. Ce qui n'était point des actes ne lui semblait pas nécessaire, ni important, ni sûr. Les paroles étaient le délassement de sa vie énergique et brave. Lorsque, à 27 ans, Martin Lenôtre s'était marié, Antoine avait craint de moins le voir. Pourtant, leur intimité ne s'était pas trouvée modifiée. Antoine s'amusait seulement de la gravité nouvelle de son ami, qui, uni à une jeune femme insensible et lasse, vénérait en elle tout l'ardent secret féminin. Ce soir-là, les deux jeunes hommes, après le repas, craignant de fatiguer Madame Lenôtre, achevèrent dehors la chaude soirée. Ils allèrent s'asseoir dans un des cafés étincelants et bocagers du bois de Boulogne. « Tout à l'heure, songeait Antoine, je révélerai le secret de la lettre reçue, d'une glorieuse relation. » Mais déjà, Martin l'entretenait d'un professeur dont la découverte en chimie bouleversait la science et, offensé que le génie des artistes ne fût pas la seule idole, Antoine se taisait sentait diminuer son bonheur. Avec douceur et avec de bienveillantes remarques, Martin le Nôtre observait les hommes et les femmes assis dans ce jardin autour des tables. Antoine les regardait et pensait « Tous ces hommes me paraissent ordinaires. Ils sont dans cette soirée d'été sous les lumières près de la musique, un troupeau là qui se repose. S'il y en a parmi eux qui possèdent une qualité primordiale, une force, elle est sans doute annulée par un défaut qui l'immobilise. Il n'y a que moi, de jeune et parfait. » Antoine regarda les femmes. Il les trouvait impérieuses, arrogantes, satisfaites d'elles-mêmes, dans leurs toilettes luisantes et tendues, sous leurs chapeaux de fleurs, avec leur air volontaire et restreint. Mais il les regardait aussi avec sympathie, car, pourtant, pensait-il, elles meurent dans nos bras de désir et de plaisir. Il évoquait leurs tendres plaintes, il les voyait toujours incomplètes, insatisfaites, penchantes, achevées seulement par les caresses des hommes. Le bonheur, pensait-il, qui pour nous est l'ambition, la connaissance, l'analyse et la puissance sur les hommes, c'est nous qui pour elle l'avons dans nos mains, qui le donnons et le reprenons. Que possède-t-elle dont elle soit fière et qui ne se plie à la servitude de l'amour? Leurs longs cheveux qui dans l'histoire semblent royaux, qu'Ophélie morte laissait traîner derrière elle sur l'étang noir, que la reine Bathilde tressait en deux nattes brillantes comme les belles cordes des navires, quel amant impatient ou jaloux ne les froissa pour renverser plus vite, sous des lèvres avides, un visage qu'il voulait honorer ou meurtrir. Et, tandis que Martin fumait, causait un peu, Antoine, lui répondant négligemment, continuait sa rêverie. Oui, pensait-il, toutes les femmes, toutes ces princesses de la terre, elles ne peuvent que plaire, et si elles ne plaisent point, elles sont mortes. Voilà leur sort. Elles n'ont pas d'autre réalité que notre désir, ni d'autre secours, ni d'autre espoir. Leur imagination, c'est de souhaiter notre rêve tendu vers elles, et leur résignation, c'est de pleurer contre notre cœur. Elles n'ont pas de réalité. Une reine qui ne plairait point à son page ne serait plus pour elle-même une reine. Les femmes, concluait-il, ne me font pas peur. Je goûte et je cherche en elles ce que les autres hommes n'estiment pas suffisamment, leur confusion et leur douceur. Mon esprit, ma curiosité, la richesse et la sécheresse de mon intelligence sont sur elles comme des doigts légers et adroits. Que m'importent leurs durs regards, leurs vaines et frivoles paroles, leurs précieuses pudicités? Je tiens leur âme renversée sous mon cœur. Je sais que la musique des violons le soir, le chant du rossignol, le clair de lune et la chaleur de leur propre corps les possèdent. Comme nous les possédons, tendres victimes qui s'affolent, courbées sous tout l'univers. Martin, en souriant, fit remarquer à Antoine un jeune homme et une jeune femme qui, venant s'asseoir à une table voisine, avaient amené leur petite fille de 8 ou 9 ans. La lumière suspendue à la branche d'un arbre tombait sur la figure de l'enfant reculée dans une grande capeline de broderie. Elle avait cet air indifférent des enfants doux, riches et bien élevés. Antoine Arnaud, un peu touché, regardait cette petite fille. Il la regardait avec bonté et amusement. Il dit à Martin « Martin, cette sage petite fille m'enchante, parce qu'elle semble très timide et très soignée, et par ses parents, sa fortune, sa délicatesse et son bien-être préservés de tout l'univers, et parce que, tout de même, Il faudra bien qu'elle soit un jour instruite et coquette, rusée, éperdue, désespérée, perverse, lâche, et finalement sans plus aucune candeur. Et comme Martin voulait doucement s'indigner, Antoine Arnauld, l'interrompant, lui fit part de la lettre reçue de sa prochaine villégiature chez l'écrivain illustre. Martin le félicita. Toute la grâce de son cœur, toujours visible dans son regard, rayonnait. Mais il ajouta : C'est un esprit qui ne me plaît point. Il était tard. Les deux jeunes hommes se levèrent et traversèrent le bois, se dirigeant vers Paris. La nuit, entre les branches noires, découvrait son visage mystérieux. Il était tard, les deux jeunes hommes se levèrent et traversèrent le bois, se dirigeant vers Paris. La nuit, entre les branches noires, découvrait son visage mystérieux. Antoine Arnauld se taisait, il se sentait seul et sans joie. Martin se réjouissait du ciel étoilé, de la connaissance qu'il avait des astres, des progrès de la science, et Antoine pensait. La science qui enivre mon ami, je l'ai connue, je sais tout d'elle, et maintenant nous sommes, elle et moi, comme deux époux qui ne prennent plus de plaisir ensemble. Elle n'ajoute rien à ma volupté. Martin, reconnaissant du bel été, des proches vacances, dans son cœur religieux, bénissait des dieux inconnus. Mais son compagnon songeait. Nuit, rameaux bruissants, nature, vous n'êtes que dans ma pensée. Je vous crée, je vous possède, mais, ô douleur, je ne serai plus et vous serez. Ô maîtresse éternelle, qui ne veut pas mourir avec moi. De retour chez lui, Antoine Arnauld, solitaire, sentait vaciller ses chances et sa vie. Il souffrait d'être le seul témoin de soi-même. Le silence et la nuit restreignaient sa faible unité. Il savait qu'il ne dormirait pas. Il prit un livre, mais l'agitation de son cœur, l'indifférence de ses yeux l'empêchaient de lire. Il tournait les pages, et voici qu'une phrase, plus brillante et plus dure, se révèle et s'impose. César pleura lorsqu'il vit la statue d'Alexandre. Antoine regarda ces mots. César pleura lorsqu'il vit la statue d'Alexandre, parce que, dit-il, je n'ai encore rien fait à un âge où ce prince avait déjà conquis la moitié du monde. César pleura lorsqu'il vit la statue d'Alexandre. Alors, l'éclat de ces deux noms divins, ses larmes, ce qu'il y a chez le héros d'humain et de surhumain, fondirent sur le cœur du jeune homme, exaltèrent en lui l'orgueil et l'âpre volonté. Et Antoine Arnauld, empli d'amour, pleura. Il pleura sur ce qu'il sentait en lui de force et de passion et de bouillonnement, tandis que la molle nuit indifférente, sous les arbres de l'avenue, continuait sa course. Chapitre 2. Depuis plus de 8 jours, Antoine Arnauld était l'hôte de son maître illustre lorsqu'il écrivit à Martin le Nôtre. Assis dans une chambre claire, portant par instants éblouis ses regards sur la campagne, il rédigeait ainsi sa lettre. Ô douceur de la verte prairie qu'en juin enivre les abeilles! Un brûlant crépitement d'ailes est suspendu aux rênes des prés, aux trèfles fleuris, à l'angélique sauvage. Comment pourrais-je, Martin, t'expliquer cet été? L'été, c'est justement ce qu'on ne peut pas dire. Les pelouses et le ciel font deux amoureuses haleines. Chaque arbre est content du monde. Dans cette satisfaction infinie, le corbeau doucement traverse l'azur. Il n'est plus de voracité. Tout baigne et tout chante. Au loin, les hauts blés remués et défaits semblent le lit de Cérès voluptueuse. Par des matinées incomparables, je me promène le long d'une fraîche rivière auprès de l'homme le plus instruit, le plus noblement inspiré. Ce sont de beaux instants, Martin. Je l'écoute, je le vénère, et involontairement je touche le fond de son cœur et de ses moyens. Ah, me dis-je, voici donc cet homme illustre dont l'œuvre, 20 fois traduite, est aussi douce à l'univers que le miel et que la paix. Son chapeau est trop large pour son front et lui rabat les oreilles. Il ne regarde pas la nature et ne regarde pas en soi-même. Il est occupé de l'impression qu'il fait sur moi. Si son âme un instant s'isole et rêve, sa rêverie est d'un enfant. Il paraît puéril et vieux. Il est à cet âge où les hommes qui ne sont pas bien portants paraissent ne plus garder assez de force physique pour avoir du courage. Leur attitude est aigre et prudente. Ils attendent tout du respect qu'ils inspirent. Ils parlent et bientôt ne se croient plus obligés de m'intéresser. Alors, je le considère avec un mélange de douleur et de joie et je pense. Le voilà, cet homme unique. Certaines phrases de ses livres semblent faites avec la moelle même de l'enthousiasme. Il a parlé de la beauté comme Tibulle pressait contre son cœur Délia. Il a parlé de la sagesse comme Moïse. Les mots qu'il emploie pour peindre la nature sont humides et somptueux, pareils aux lourds cédras que je vis dans les villas royales de Florence et qui, entre les branches de leurs petits arbres, étaient glauques, lisses, allongés, comme des vases parfaits. Il a parlé de l'Espagne, de telle sorte que l'Espagne ne peut plus nous satisfaire. Il a décrit l'ardente Égypte, si aveuglante à midi que les pas d'un homme traînent derrière eux leur ombre, comme deux lambeaux noirs. Il a chanté les plaines du nord, d'où s'élève le soir un sol de vanneau, et jusqu'à ces petites villes vallonnes qui, exactes, sensibles et compassées, ressemblent à un village de la lune. Je le regarde. Pendant que nous nous promenons, la chaleur détend et humecte son visage. Il a été aimé. Les femmes les plus précieuses de son pays, l'ayant entendu nommer, lui disaient « C'est vous, maître, avec la voix de Marie-Madeleine. » Et, dans des contrées lointaines, de petites filles ignorantes, sauvages et rebelles se sont débattues sous le poids de son cœur amusé. Son peuple l'a aimé, on l'a choisi et honoré dans d'importantes querelles, il sait sa gloire. Quand il est seul, il écoute son nom. Son nom est autour de lui comme une présence, comme un parfum, qui toujours monte et de toutes parts l'encens. Maintenant, cet homme est si triomphant que l'idée de son tombeau lui semble encore éclatante et victorieuse. Pourtant, Martin, lorsque je marche près de lui, mon orgueil, loin de s'abattre, s'élève. Je m'écris. Ah, qu'importe, je le sens bien. Nul être ne m'est supérieur. Oui, Martin, les chants du jeune Shakespeare ne l'enivrait pas davantage que ne m'enivrent les parfums de mon cœur. La puissance d'enivrement, voilà le bien comparable pour lequel rien ne nous est utile que nous-mêmes. Dans de sombres bibliothèques, assis jusqu'après minuit, combien de fois n'ai-je pas saisi, avec passion, les livres les plus fameux, les plus caressés par la faveur éternelle. Je prends ces beaux coquillages, je les tiens un instant contre mon oreille et je les laisse retomber, car leur mélodie m'a appris quelque chose qui est au-delà d'eux-mêmes. Martin, le succès que je prévois pour moi lasse déjà mon imagination. Sur quels hommes régnerais-je? Il faudrait encore que nos esclaves eussent notre propre valeur. C'est le seul amusement. Je songe à l'amour. Il n'y a que l'amour qui prenne totalement notre empreinte. Les femmes, que nous avons fait un peu souffrir, contre notre cœur garde notre souvenir. Je me rappelle une actrice espagnole que son génie et sa passion rendaient illustre. Son amant l'avait quittée, elle se souvenait. Ah, Martin, elle était humble et basse et toute marquée, comme une route sur laquelle un homme a marché. Âme salubre des jeunes femmes, elle boit nos fièvres, elle en reste saturée, ainsi que de douces oranges ayant aspiré les vapeurs des marais, mêlent ce venin au sucre innocent de leur chair. Martin, je veux vivre. Je veux vivre et chanter par-dessus les monts et les eaux. Que mon jeune siècle s'élance comme une colonne pourprée et porte à son sommet mon image. Lorsqu'Antoine Arnauld eut achevé cette lettre, il la relut et en fut satisfait. Il se demandait s'il allait l'envoyer à son ami ou la joindre au feuillet qui composerait son prochain ouvrage. Mais, comme en cet instant, il se moquait sincèrement de la littérature, il l'adressa, sans en faire de copie, à Martin Lenôtre. Puis, comme l'heure du repas approchait, il s'habilla et rejoignit son hôte. Les réunions de la journée et du soir se tenaient dans une fraîche salle boisée. Celui que l'on vénérait avait sa place près de la fenêtre. Autour de lui, ses deux filles aînées, mariées, et maussades, veillaient au bon ordre de la maison. Les deux gendres, dont l'un était officier et l'autre avocat, paraissaient goûter à la gloire de leur beau-père avec cet entrain et cette vulgarité des gens qui ont enfin, régulièrement, une bonne chère dont ils n'avaient pas l'usage. La plus jeune fille du maître, qui s'appelait Corinne et qui, âgée de 18 ans, était d'une beauté charmante, retenait les regards d'Antoine Arnauld, lequel pourtant désespérait d'entendre sa voix ou de la voir sourire, tant elle était sage, furtive et modérée. Ainsi, privé du plaisir qu'il eût eu à s'entretenir avec elle, Antoine Arnauld reportait avec amertume son attention sur le petit groupe qui formait l'entourage de l'homme illustre. Il y avait là des camarades de sa jeunesse, âgés d'une 50aine d'années. Les plus sots étaient avec lui familiers, et les autres trop timides. Il y avait les écrivains de 40 ans, plus vaniteux de leur métier, de leur situation, de leur futile et adroit labeur, que le grand homme ne l'était de son génie. Ceux-là parlaient de la poésie, du roman ou du théâtre, avec le ton soucieux et l'assurance de personnes chargées de la conduite définitive d'un genre où elles pensent exceller. Antoine Arnauld les méprisait, fumait ses cigarettes à l'écart de ce groupe et ne se rapprochait du grand homme que quand il le voyait solitaire. Alors, assis auprès de lui, timide et audacieux, comme un enfant qui distrait un roi, il l'interrogeait à sa préférence et la dévotion que lui inspirait ce front lumineux se mêlait de rire et d'impiété quand le jeune homme se sentait forcé d'élever la voix pour satisfaire l'ouïe affaiblie du vieillard. Quelquefois, Corinne venait s'asseoir auprès de son père et d'Antoine Arnauld. Dans ces instants-là, Antoine souhaitait que, par une chance qu'il ne prévoyait pas bien, l'homme admirable l'entretint du petit livre dont il était si fier et pour lequel d'ailleurs son hôte l'avait complimenté et attiré chez lui. Mais il ne lui en reparlait jamais. Et un jour, qu'Antoine avait fait allusion à un épisode qui s'y trouvait conté, Il avait surpris le regard du maître, distrait et insensible. Le jeune homme eût aimé attirer l'attention de Corinne et l'éblouir. Que pouvait-il faire pour gagner sa sympathie? Généralement, il lui disait vers le milieu de la journée « Je vais travailler ». Elle souriait et ne s'étonnait pas. Une fois, il lui dit « J'ai relu ces jours-ci tous les livres de votre père ». Elle parut plus touchée. D'autres fois, il la taquinait, mais il n'était point habile à cela, car, dans la méfiance et l'essai, il avait l'esprit un peu rude et grossier, et il ne pouvait témoigner sa délicatesse que dans l'autorité et ce qu'il appelait en riant sa clémence. D'ailleurs, ayant pendant quelques jours réfléchi au parti qu'il aurait pu tirer de l'amitié de cette jeune fille, il vit bien qu'il se contenterait de son indifférence. « L'épouser, y pensais-je ? » songeait-il à présent. « Je suis à l'âge où l'on ne limite pas la vie. Le nom glorieux que porte en outre cet enfant, mu par moments affligé, décidément, je n'ai rien à faire d'elle, » conclut-il. Et bientôt, Antoine Arnaud ne témoigna plus à Corinne que cette politesse élégante et froide qu'il était toujours fier de marquer. Il écrivait à Martin des lettres peu à peu maussades et s'irritait de recevoir de son ami de longues épîtres heureuses, pareilles à ces narrations enfantines des vacances, où tout prend de l'imprévu, du soleil et de la gaieté. « Je le vois, » pensait Antoine Arnaud, « je le vois, champêtre et correct, assis auprès des siens dans le jardin familial. Il sourit à ses parents, à ses neveux, à la vieille servante. Il tient la main d'une de ses sœurs et l'interroge avec bonté. Il n'a de rigueur et de tenue sociale que ce qu'il croit être de la bonne éducation. » Mais son âme spontanée et naïve, son âme active et pure, s'échappe, s'élance, porte secours, s'ébat et se mêle aux autres. Il est délicat et pourtant rude, juste assez pour ne point s'effrayer de la rudesse. Ses mains touchent toutes les mains sans s'étonner du contact. « Cher Martin, » pensa Antoine Arnaud, « la dureté de la vie et ta science n'ont point prévalu contre la douceur de ton sang et contre les histoires que ta mère te contait, assise sous le frais feuillage, quand le laurier au soleil tombant fait une ombre noire sur les cailloux, et que le taureau rentre à l'étable féroce et humilié par la porte basse. Ta femme est près de toi. Elle te semble charmante et inépuisable, tu ne regardes plus qu'elle. Mais, avant elle, toutes les femmes te semblaient charmantes, parce que ton cœur est respectueux. Moi, Martin, je ne suis pas comme toi, respectueux de toute la vie, je suis respectueux de la douleur, du malaise aimable, de l'inquiétude de tous les petits êtres qui cherchent leur providence, les oiseaux des îles, que Corinne nourrit dans une cage, m'attendrissent, parce qu'ils ne savent plus où est la chaleur et le bonheur. Et ils tremblent et nous regardent. Et Rarahu aussi m'attendrit quand Loti nous dit d'elle que, brûlée de phtisie et de langueur, elle voulait tous les marins, tous ceux qui étaient un peu beaux. Douce animalité qui, cherchant le sens de la vie, ne trouve que le plaisir. Lorsque Antoine Arnaud s'était ainsi représenté les attitudes de son ami et son paisible bonheur, il songeait à sa propre enfance, à la petite ville où il était né, à son père et à sa mère, trop différents de lui, à son adolescence délicate, envenimée de fièvres et d'insomnie, tandis qu'il faisait ses études au lycée de X, et que, blessant ses camarades par son dédain et son silence, il pleurait pourtant le soir de mélancolie en évoquant le chant du pâtre dans la plaine. être le maître et le maître des plus forts et des meilleurs. Être celui qui commande et qui flatte et qui, retiré le soir dans la solitude de son cœur, pense « Homme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ?» Être celui enfin en qui chantent le plus fortement les légendes mortes et le fier avenir. Voilà ce que souhaitait ce jeune David, qui, debout devant l'immense force, appelait et provoquait la vie. « Je n'ai point perdu mon temps, » pensait Antoine Arnauld comme il réfléchissait ce soir-là à son sort. « À 25 ans, un livre de moi fut bien reçu, et l'autre m'a valu l'honneur d'être ici. Ma jeunesse, mon audace, le désir et le mépris que j'ai de plaire attirent sur moi des regards intrigués. Le maître vénéré dont je suis l'hôte n'a point, il est vrai, tant de finesse qu'il puisse deviner en moi son rival, mais il goûte la forme de mon esprit et suscite volontiers ma conversation. Quant aux femmes, si je ne suis point aimée de cette petite Corinne, c'est qu'elle est sotte et insensible, et si tout à coup l'envie me prenait de voir un visage se troubler pour moi jusqu'à mourir, je n'aurais qu'à m'arrêter un de ces jours chez Madame Maille. D'ailleurs, que fais-je ici ? Pensa Antoine Arnauld avec un peu d'aigreur, car il constatait qu'il ne goûtait pas dans cette demeure la situation prépondérante qu'il jugeait seule tolérable et que, généralement, la solitude lui donnait. Voici un mois que je loge chez un maître que je respectais davantage quand je ne le connaissais point. Le don qu'il m'a fait de sa présence me prive de la vénération qu'il m'inspirait. Il est mon débiteur, mais je pense écrire sur lui un petit essai, aimable, sincère, aigu, et nous serons quittes. Était-ce, continuait-il, car il se libérait déjà en portant son séjour dans le passé, était-ce une vie digne de moi ? Je me voyais contraint de sourire à chaque parole de mon hôte et d'être de son avis. Si je me hasardais un instant à ne pas l'être, c'était pour mieux lui rendre les armes. Les deux gendres, qui ne font pas de littérature, me considéraient comme quelqu'un venu pour bien manger et ne cessaient d'attirer mon attention sur les mets. Les hommes de roman et de théâtre, que je ne flattais point, me regardaient comme un débutant naïf, lequel cherche à se passer d'eux, mais ne saurait aller loin sans leur secours. Les deux filles mariées, apparemment de prudentes ménagères, faisaient sans doute entre elles le calcul de ce que coûterait à la famille mon séjour qui se prolongeait. Et enfin, l'aimable Corinne me voit sans être intriguée ni troublée. Antoine Arnauld prit la résolution de quitter la demeure illustre où il vivait depuis plus d'un mois. Après le dîner ce soir-là, comme le tout petit groupe était assis devant la maison, près des pelouses que l'ombre envahissait, Antoine Arnauld annonça timidement qu'il repartait pour Paris. Il demanda à son hôte la permission de prendre congé de lui le lendemain. Il le remerciait avec gravité et embarras du bonheur qu'il avait eu à partager son existence. Et en effet, il goûtait en ce moment avec une précieuse tristesse la saveur de cet instant humain, la forme de cet homme que les honneurs des villes avaient rendu insigne et glorieux et qui, dans la fraîche énigme de la nuit des jardins, n'avait de soutien que lui-même et que les tendres filles appuyé contre son cœur. Qu'était-il, dans la nuit grise et scintillante, un être chétif et diminué qui va se mêler à la mort ? Corinne, au travers de l'ombre qui altérait les voix, qui leur donnait un accent falot et déprimé, lui demandait par instants « Tu n'as pas froid ?» Il répondait « Non, comme quelqu'un qui pense au froid éternel. » Les géraniums et la verveine répandaient dans l'obscurité une odeur mystérieuse échappait de leur cœur fermé. Quelque chose bougeait dans l'air, des insectes, un oiseau, un peu de vent. Et Antoine Arnaud, immobile, glacé, éperdu de rêverie et de tristesse, goûtait cette mélodie, ce silence, cet abîme, ces vies, toute la vie, et sentait monter à ses lèvres le goût du désir doux et funèbre. Il regarda auprès de lui et vit Corinne, qui était assise là. Il sentit qu'elle le regardait. Il lui dit « Je pars demain ». Elle répondit « Ah !» comme un enfant qui s'est fait un peu mal. Elle se tut, puis demanda en faisant effort sur elle-même « Est-ce qu'il faut que vous partiez demain ?» Il répondit « Oui !» d'un ton définitif dont il fut satisfait. Elle sentit qu'elle ne pouvait plus rien dire. Regrettant sa brusquerie et la confusion où elle avait mis la jeune fille, il lui parla avec bonté, l'interrogea sur ses études, sur ses occupations, il lui donnait des conseils pour la vie, le caractère et le bonheur. Jeune professeur qui touche à l'éducation des femmes, comme on corrige un devoir aimable, elle disait oui à voix basse, ou bien se taisait. Un coup de vent plus vif, ayant rafraîchi l'atmosphère, on se leva pour rentrer. Comme on se quittait, au bas de l'escalier qui menait vers les chambres, Corinne souhaita le bonsoir à son père et aux autres personnes et affirma qu'elle ne prendrait pas froid à rester encore quelques instants dans le salon, penchée à la fenêtre noire. Antoine Arnaud la quittait à regret. Quand il se trouva dans sa chambre, il pensa à laisser la porte ouverte sur le vestibule afin de voir passer la jeune fille au moment où elle remonterait chez elle. Il alluma sa lampe, il prit un livre et s'assit. Il lisait les dernières pages d'Atala et puis il lut René. Les hautes phrases mélodieuses frappaient son cœur en même temps qu'un subtil ennui. Le sentiment d'une beauté morte décomposait son plaisir. Pourtant, soupirait-il, Chateaubriand, vous êtes l'orage et le héros, le pur contour et les sommets. Vous êtes le vase dans la nuée. Un bruit de pas retentit, une robe légère remuait. La jeune fille montait l'escalier, Antoine l'attendit, le visage penché sur son livre. Corinne, en avançant, vit la lumière. Elle voulut passer, s'arrêta pourtant et, avec embarras, elle dit « Vous avez de la lumière ?» Il répondit, s'étant levé « Je lisais. » Et comme elle allait se retirer, il saisit le livre sur la table, s'approcha d'elle, reprit « Oui, je lisais cette page émouvante. J'étais accablée d'une surabondance de vie. Quelquefois, je rougissais subitement. Et je sentais couler dans mon cœur comme des ruisseaux d'une lave ardente. Il me manquait quelque chose pour remplir l'abîme de mon existence. Je descendais dans la vallée, je m'élevais sur la montagne, appelant de toute la force de mes désirs l'idéal objet d'une flamme future. » Corinne l'écoutait. Elle avait un regard qui absorbait toutes les paroles du jeune homme et ne choisissait pas. Antoine Arnaud se sentit troublé par un visage si immobile et si docile, et pourtant, lorsqu'elle voulut une seconde fois se retirer, il la retint encore, et, lui montrant la fenêtre ouverte, « Voyez, lui dit-il, comme la nuit est charmante. » Ils s'approchèrent ensemble de la fenêtre. Antoine Arnaud, en contemplant l'espace étoilé, auprès de cette petite âme pensive, ressentait surtout la nostalgie de tous ces petits mondes brillants, où il ne pénétrerait pas et ne deviendrait pas célèbre. La jeune fille, silencieuse, dirigeait ses regards sur l'ombre, sur les étoiles, comme faisait Antoine Arnaud. Elle aspirait dans son cœur la nuit déserte, où se mettent à vivre mille petites âmes froides qui sont hostiles à l'homme, l'âme du peuplier et du saule humide, l'âme de la grenouille, de la lentille d'eau et de l'émouchet assoupi. Elle fit un mouvement avec ses deux mains, ses deux bras tièdement parfumés, et, Antoine Arnaud, l'observant, s'aperçut qu'elle pleurait. Elle pleura d'abord lentement, puis, avec une lâche et douloureuse violence, comme un orage éclate, comme un cœur crève de poésie. Elle avait saisi le bras du jeune homme et elle pleurait sur sa main. Elle le tenait, comme quelqu'un qui se noie retient la rive. Elle le serrait, d'une étreinte dont la force par petits coups croissait. Il était plein de pitié, de douceur. Il regardait discrètement et sans curiosité cette peine abondante, cette force de vie qui courait sur ce jeune visage. Il eût pu dire à ses larmes « Vous pensez être douloureuse, et pourtant vous entraînez comme un torrent d'été de la chaleur et des fleurs, les reflets de la colline et de la lune mince, car c'est votre jeunesse et votre ardeur, ô petite fille, qui roule sur vous comme l'eau sur de clairs galets. » Mais il lui parlait timidement et elle répondait « Ah, monsieur !» en soupirant au travers de ses lourdes larmes. Et bientôt, il la vit qui chancelait, épuisée, étourdie, molle et brûlante. Il eut peur. Doucement, respectueusement, il la prit dans ses bras. Il la portait vers le lit. Si craintive qu'elle fût, elle ne se défendait pas contre cette bonté. Et en vérité, la bonté d'Antoine Arnaud, en cet instant, était secourable et pure. C'était une âme qui enveloppe une autre âme et qui lui dit « Vivez, ma sœur !» Il ne la touchait pas et restait éloigné d'elle. Elle, couchée de côté, regardait avec défiance, avec douleur, la longue nuit noire et brillante. Elle poussa un soupir plus profond, éclata de nouveau en sanglots, appela le jeune homme, le regarda, prit sa main et de force l'appuya sur son cœur.